Bienvenue dans les Mystères du Net avec cette semaine donc Mathéo. Bonjour Mathéo.
Salut Alexis.
Et Esteban.
Bonjour.
De quoi vous allez nous parler cette semaine?
Bah moi je vais commencer par le Samsung Galaxy Note 6 qui serait équipé d'un scanner rétinien. Et la Ligue 1, c'est la Goal Line Technology, la nouveauté technologique de la saison.
Donc du nouveau dans le foot.
Voilà, je vais vous expliquer comment...
Et dans le rugby.
Et dans le rugby aussi. Eh bien, Esteban ?
Moi, je vais vous parler d'un canapé, le LeafBeat, pour un canapé connecté moche, très cher et très confortable.
Eh bien, c'est prometteur. Voilà, et bien sûr avec Guillaume. Bonjour Guillaume.
Salut Alexis.
Voilà, et Tristan qui est aux manettes.
Salut.
On se retrouve tout de suite après une musique pour parler de tout ça. À tout de suite en CFM. I'm Bienvenue dans la première partie des Mystères du Net. Alors, qui commence ? Esteban.
Il y a un canapé qui s'appelle le LeafBeat, qui est connecté et moche, très cher et inconfortable.
Et tu commences par le truc le plus moche de l'émission, quoi.
Ouais. C'est ça.
Bon, quelle couleur déjà ?
Je sais pas.
Ah, la question qu'il fallait pas poser.
Ah, ouais. Il est vert.
Ah, il est vert. Ah.
Et un canapé qui coûte 13 000 euros.
Il propose quoi, alors, ce canapé de connecté ?
Il s'agit d'un concept de sorte de pouf. Vous savez, là, les gros poufs, là où...
Où tu t'enfonces.
Ouais, voilà. Ça, c'est bien. Une chaise, un lit, un canapé et plusieurs autres utilisateurs fait sa création sur l'application. Sa hauteur est de 48 cm.
Ouais, mais et... concrètement, il propose quoi, ce canapé de connecter ? Le café, ton Facebook
Non, en fait, il est connecté parce que tu le règles à partir d'un smartphone, quoi.
Ah, d'accord. C'est quand même pas mal. Donc, tu peux le régler avec ton smartphone, la hauteur. Oui. Il y a d'autres choses que tu peux régler ou... D'accord. Parce que pour 13 000 euros, ouais, effectivement.
En fait, c'est des poufs hexagonaux qui s'assemblent les uns aux autres. Et en fait, chaque pouf coûte 800 euros.
Ah,
donc
ouais.
Après, tu l'adaptes en fait en fonction de la grosseur que tu veux.
Là où tu veux.
Et tu l'aimes pas, toi, ce concept-là, c'est pas ton...
Si, c'est bien, mais si c'est moche, cher et pas confortable...
Ah, cher, tout est relatif.
Alors, je confirme qu'il est moche.
Et le pire, c'est qu'il pourrait se vendre.
Ah, c'est du concept, après. C'est...
Alors, l'idée des poufs qui se lèvent et ça baisse, en fait, vraiment à la demande pour le régler, finalement, comme tu le veux, ça peut être assez sympathique.
Ouais.
Après, il faudrait qu'il recouvre tout ça d'une toile pour faire un peu joli, quoi.
Ouais, d'accord. Ouais, parce que vert, effectivement, c'est peut-être pas le meilleur des goûts.
C'est ça. Mais c'est un projet. Voilà. Ils feront peut-être mieux après, quoi.
Ouais, c'est une version. Ouais.
C'est un début. Ouais. Tu changeras la couleur après.
Voilà.
On va vous mettre la vidéo sur la page Facebook pour que vous puissiez apprécier à quel point il puisse être moche.
Et inconfortable.
Et en plus, inconfortable.
Ah, là. Inconfortable.
En plus.
Ça, c'est con, par contre.
Ouais, pour un canapé, c'est mal parti.
Donc, c'est le Lift, tu disais ?
LeafBeat. Okay. LeafBeat.
Voilà, donc si ça vous intéresse d'avoir un canapé connecté.
Postez les photos, on partagera.
Vas-y, à toi.
Donc, je vais parler du Samsung Galaxy Note 6. Ça sera le nouveau portable. À peine le S7 Edge vient de sortir, qu'ils en parlent déjà des nouveaux.
Alors, moi, je connais pas trop, mais les notes, c'est les gros téléphones, c'est ça ? C'est ceux qui ont un petit stylet, non ?
Je crois.
Hein, c'est ça, ceux qui font...
Oui, les notes, ils sont à la limite de la tablette.
Voilà, ils font frisbee et téléphone, quoi.
C'est ce qu'on appelle les fablettes.
Voilà. Ou pour faire des ricochets dans la rivière, il paraît que ça marche super. Ok, d'accord, donc c'est des gros téléphones qu'on met sur l'oreille.
Et il serait équipé d'un scanner rétinien.
Un scanner rétinien, ouais.
Donc Samsung devrait présenter cet été une nouvelle fablette, ça s'appelle.
Une tablette et...
Voilà,
et
smartphone.
Voilà.
Donc on commence à connaître l'équipement. Alors, en ce début avril 2016, on apprend que l'appareil bénéficiera de la même certification de l'IP68 que le Galaxy S7.
Ouais.
Donc, autrement dit, la phablette pourra supporter une immersion d'une demi-heure dans 1,5 mètre d'eau.
Ah, on pourra faire du ski nautique.
Faire des ricochets.
Voilà, ricochets, ski nautique.
Et elle serait également bien protégée de la poussière.
Une fois qu'elle a passé son temps dans l'eau, de toute façon, il y a plus de poussière. Hein.
C'est pour ça. Une autre information, c'est que le Galaxy Note 6 pourrait être équipé d'un scanner rétinien.
Ouais.
Donc, d'après un site néerlandais, Samsung a en effet fait livrer une Iris Cam à son département de recherche et développement en aide pour qu'il travaille à son implantation dans ses appareils mobiles. Donc, si la prochaine phablette du fabricant sud-coréen n'est pas mentionnée, certains espèrent qu'elle pourrait être munie de cette technologie. Cela dit, rien ne dit que le Galaxy Note 6 soit bien le premier à en profiter. Parce qu'on espérait déjà que cette technologie équipe le Galaxy S5, sorti il y a 2 ans.
Ah oui, ils sont un petit peu à la bourre, les gars.
Voilà, donc cette phablette devrait profiter d'un écran de 5,8 pouces et tourner sous Android N. Elle embarquerait un processus Exynos ou
processeur.
Snapdragon.
Processeur.
Un processeur, pardon. Accompagné de 6 Go de RAM.
Giga de RAM, ce qui est pas mal, ce qui est...
Et elle offrirait 64 ou 120 gigas d'espace de stockage et un capteur photo de 12 mégapixels à l'arrière de l'appareil.
Correct, voilà. Correct. Avec une petite carte SD, non, ils mettent pas les cartes SD. Hein. Non. Tu peux plus, hein. C'est 64 ou 128 et tu peux plus faire plus.
Sa présentation était attendue pour l'été prochain. On aura certainement d'autres détails au fil des émissions qu'on vous transmettra.
Et toi, vous deux, là, un petit scanner rétinien, ça vous tente d'ouvrir votre tablette avec ça ? Vous trouvez que c'est utile ou c'est plus le gadget
Ouais, le gadget, quoi.
Ouais, ouais. Je pense que faire parler.
Ouais, pour faire parler. Pourquoi ils ont l'air d'y bosser dessus, donc ouais.
J'espère que ça scanne de loin, parce que si t'es obligé de te coller la tablette à l'œil, je vois que tu veux l'ouvrir.
Surtout dans l'eau, quoi. Ouvre les yeux. Non. Bon, c'est quoi le danger, à votre avis, qu'un scanner rétinien? Il y en a ou pas?
Ça abîme l'œil.
C'est pas encore... ils en sont pas encore là, je pense.
Non. Ah, le truc, c'est que t'as encore plus de données. Déjà, tu sais, tu peux l'ouvrir avec tes empreintes digitales, les téléphones et les tablettes. Là, c'est encore une donnée de plus que tu as donnée à un constructeur, quoi. Là, Corée du Sud ou américain ou autre, quoi. Donc de plus en plus, on sert de nos corps pour ouvrir, pour rentrer en contact avec les appareils, et les données, on en perd un petit peu le contrôle, quoi.
Ouais. Et si jamais vous faites voler votre tablette, bah, les gens pourront récupérer l'empreinte rétinienne qui est stockée dessus, quoi. J'avais vu un exercice là-dessus de sécurité où ils refabriquaient en fait des faux...
Des fausses empreintes digitales, non?
Non, ils se fabriquaient des lentilles en verre.
Ouais. Ah ouais, pourquoi?
Avec des fausses images dessus, en fait, pour tromper les lecteurs.
Ouais. Attends, ouais. Tout est falsifiable après ce niveau-là, de toute façon, il n'y a pas de...
C'est ça. Alors, puisqu'on parle de scanner rétinien, moi, je vais vous parler de Paraf. Je ne sais pas si vous connaissez Paraf.
Non, pas vu cette semaine.
Paraf, c'est le nouveau système, en fait, qui sont aux frontières, notamment dans les aéroports, et en fait, sur lequel vous posez votre passeport. Mmh. Et vous avez le portique qui s'ouvre, en fait, si le passeport est reconnu.
Ah oui?
Oui, c'est déjà en place depuis pas mal de temps, pour ceux qui prennent l'avion régulièrement. Ça permet d'aller plus vite.
Bien sûr.
Et en fait,
du moins qu'il est vrai, ouais, ça passe.
C'est ça, en fait, ça vérifie du coup l'identité de la personne directement et ça valide ou pas. Et donc le gouvernement a publié la semaine dernière un arrêté qui autorise Paraf en fait à faire une reconnaissance faciale.
Ah.
Pour vérifier en fait que du coup le porteur du passeport soit le bon.
Ah ouais, la bonne personne, quoi.
Voilà. Donc du coup, vous allez voir sûrement dans les rapports français. D'ici quelques temps, en fait,
un petit détecteur
en fait qui vous permet de reconnaître en fait la personne.
Mais Paraf, c'est une boîte française ou il y a une origine un petit peu sur cette boîte?
C'est non. Pas non, c'est un organisme gouvernemental.
Ah d'accord.
Enfin c'est oui.
Ouais.
Et donc du coup, alors la CNIL a mis une réserve sur le projet.
Tu m'étonnes.
Et en fait, n'a autorisé le projet juste parce qu'en fait, ils ne stockeront pas. Les informations, ouais. Parce qu'en fait les informations sont stockées dans le passeport, sur la puce du passeport.
D'accord, ils font que lire et
voilà.
Pas plus.
Le système ne fera que prendre la photo de la personne et
comparer
au passeport.
Ouais.
Après rien n'empêche de stocker les photos prises au fur et à mesure.
Ouais. Mais... c'est comme les scanners là qui, tu sais, que le mec, t'as les scanners où il te dénudait totalement et il gardait les photos des scanners des gens qui passaient dans les portiques de sécurité.
C'est ça. Une autre info, Esteban?
Oui. Et donc, est-ce que vous savez que de plus en plus de développeurs de jeux s'intéressent à la réalité virtuelle?
Avec tous les casques qui commencent à sortir, ouais, c'est...
Oui, il y a un peu moins là maintenant.
Ouais.
Et donc, dans la réalité virtuelle, devient mainstream.
Mainstream, c'est-à-dire que devient mainstream. Grand public, pour parler français.
Plus les développeurs s'y intéressent. Et comme je n'ai cessé de le répéter cette année, la réalité virtuelle va vraiment commencer à se démocratiser. Cependant, même si de nombreux casques vont arriver sur le marché, pour que ces produits soient intéressants, il est nécessaire d'avoir un bon contenu. Enfin,
ouais. Un bon quoi ?
Un bon contenu.
Ah oui, c'est sûr qu'il faut des jeux. C'est bien beau d'acheter un casque, mais si derrière t'as pas de jeu... Ou t'as pas d'application intéressante, tu vas pas aller loin, quoi. Un peu comme sur les smartphones où ça sert à rien d'acheter un Windows Phone puisqu'il y a presque pas beaucoup d'applications qui sont développées dessus, quoi.
Donc et la bonne nouvelle, c'est que d'après un sondage réalisé par la Game Developer Conference, de plus en plus de développeurs de jeux vidéo s'intéressent à ce nouveau format. Et donc la GDC a interrogé plus de 2000 développeurs du monde entier. Et d'après cette enquête, 16% de ceux qui ont déclaré qu'ils travaillent déjà sur ce contenu en VR.
En réalité virtuelle.
Oui, pour 2016.
D'accord, donc tout le monde s'y met et
voilà,
on va l'avoir plein les yeux, quoi.
Voilà.
Sur Internet, on peut déjà trouver des listes de jeux. Ça y est, vu que ça commence à sortir, on a des listes de jeux et on va dire que là, 90% c'est quelque chose de pas connu et on en a deux ou trois qui ressortent un peu du lot, mais
ouais.
Voilà quoi.
Et on parle souvent des casques de réalité virtuelle dans les mystères du net. Toi, Tristan, il y aurait un casque qui, pour l'instant, t'as un petit peu accroché ou...
Non, pas du tout. C'est plus pour les jeux.
Ouais.
Je suis gamer, hein, donc ça m'intéresse, mais les jeux, c'est pas encore ce que je recherche, quoi. C'est de l'observation, j'ai envie de dire, pour l'instant, quoi. C'est des jeux où c'est de l'immersion, voilà, ouais. Ok. Mais on n'a pas encore quelque chose de...
Le gros FPS qui déchire tout, quoi.
par exemple, mais enfin voilà, je m'intéresse pas qu'à ça, mais c'est vrai que c'est j'attends plus d'action, on va dire, permettant de voilà, quelque chose de plus sympa quoi.
Ils ont pas encore trop trouvé le modèle de pour jouer dans la réalité virtuelle.
Je pense Je pense qu'ils doivent bloquer par rapport au déplacement par exemple, des trucs comme ça.
Ouais, rendre compte de tout.
En fait, t'as une manette dans la réalité virtuelle.
Sur l'Oculus, t'as deux petites manettes en fait. Sorte de gyroscope que tu portes, des gyropodes que tu portes aux mains, et en fonction de ça, en fait, il y a tout un arsenal pour être dans la réalité virtuelle.
Il y a beaucoup de câbles aussi. Ouais. Un peu gênant.
C'est-à-dire que t'as une sorte de petite passerelle autour de toi, et après, tu portes des sortes de manettes au bout des mains. Ouais, c'est pas fluide encore.
Pourrait pas y avoir de FIFA, je pense, sur un.
Peut-être.
Ouais, faut le mettre en forme après.
Ouais. Donc, faut adapter.
Voir ton stade la vue d'un FIFA, tu vois, donc de côté. Enfin, la réalité virtuelle, je vois pas trop l'intérêt, quoi. Donc, à mon avis, c'est ça qu'il faut travailler, quoi.
Je pensais en fait à être dans la peau d'un joueur. Et...
Ah, le mode pro, ouais. C'est vrai que dans les FIFA, on fait ça maintenant, apparemment, là. Donc,
ça va être intéressant. Pro,
Ouais, voilà, je suis pas très. Je connais pas bien les jeux de foot, mais.
Tu vois comme un joueur.
Moi, je joue tout le temps.
Après, ça dépend. Courir et frapper dans un ballon, tout en réalité virtuelle, ça peut devenir vite compliqué.
Ouais. Je pense, Il y a encore une marge, je pense aussi.
D'accord.
Après, c'est vrai que moi, les derniers exemples que j'avais vus, notamment au Festival du jeu à Cannes, ça manque un peu d'aboutissement, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait. Il y en avait un où c'était un vélo. Donc, t'avais un vélo et la personne mettait le casque, montait sur le vélo. Et en fait, elle faisait du vélo réellement et
ah oui.
En fait, le vélo était sur un truc d'essai là.
Ouais.
Et elle se voyait en fait dans le casque faire du vélo quoi. Sauf qu'en fait, une fois sur deux, il y a des capteurs qui
marchaient pas trop.
Qui détectaient pas le truc. Alors du coup, elle pédalait mais elle avançait pas. Enfin, toi, t'es vraiment encore dans des phases un peu expérimentales.
J'ai vu ça avec du parapente aussi. Ouais. Ouais. Et pareil, c'est buggé encore. Voilà, c'est pas fini comme tu dis, c'est pas au point encore.
Ouais.
Mais c'est prometteur. Après,
c'est pour ça qu'il y a autant de développeurs qui s'y mettent parce que le marché est immense, quoi.
Ah oui, là, il y a de quoi faire, par contre. Ouais, ça, c'est sûr.
Une petite info?
Vas-y.
Bon, les vacances approchent à grands pas. Elles commencent le 19 avril. Et le Fab Lab de l'AMG de Rodez organise pas mal de stages. Donc, je vous ai prévu une petite liste. Donc, il y en a un qui va utiliser la presse à textile, vous savez, pour se faire des petits t-shirts personnalisés. Et donc là, il y en a un qui sera du 19 au 20 avril, animé par Arthur, mon collègue Vardagnan. Et c'est créer ton t-shirt au Fab Lab. Voilà, donc c'est à partir de 9 ans. On a un autre où à partir de 12 ans, là, c'est créer ton robot au Fab Lab. Là, c'est carrément, ils vont assembler et animer un petit robot. Ça, c'est animé par Michel Escamez et c'est le 21 et 22 avril. Quoi d'autre? Il y aura aussi un stage radio, tiens, curieusement, le 28 et 29 avril. Et un autre, ça va être créer ton héros au Fab Lab. Là, ce sera, je pense, à base d'imprimantes 3D, de découpe laser, quoi. Donc, on va chercher des petits modèles, on va voir qu'est-ce qu'on peut imprimer. Et ça sera le 26 et 27 avril, et toujours avec Michel Escamez, et à partir de 9 ans. Donc, si vous avez envie de voir la presse à textile, la découpe laser, l'imprimante 3D, ou découvrir la radio, et voilà.
Jusqu'à quel âge?
Jusqu'à 18 ans, on va dire.
D'accord.
Donc voilà, vous avez toutes les infos sur mjcrodes.fr, vous allez cliquer sur les clubs et vous aurez le programme des vacances de printemps.
Plein de bonnes activités pendant les vacances scolaires.
Voilà, il y a 17 activités, j'ai pas tout dit, il y a aussi un truc de fresque, pour créer une fresque, il y a du création de personnages en papier mâché, j'en passe, de l'escalade et autres. Voilà. Si vous savez pas quoi faire pendant ces vacances, n'hésitez pas à aller voir là-dessus, il reste encore un petit peu de place.
Parfait. Mathéo ?
Donc je vais parler de la Ligue 1. Et comment fonctionne la goal line technologie? C'est la nouveauté de la saison. Alors, c'est les polémiques. Et avant, elles étaient sans fin pour savoir si le ballon avait franchi ou non la ligne des buts. Et maintenant, elles sont bel et bien terminées en Ligue 1. Parce que la Ligue de football professionnel, elle a annoncé la mise en place de la goal line technologie l'année dernière. Et dès les premiers matchs de la saison 2015-2016, ça a eu lieu. Donc, comment le système fonctionne? Testé grandeur nature lors de la Coupe du Monde 2014, vous en avez peut-être entendu parler.
C'est là où ils mettaient aussi du spray là, blanc sur la pelouse. Là, que...
Oui, c'est pour... c'est
la chantilly, là, ouais.
Ouais, c'est la démarcation, c'est pour pas que...
Il bouge le ballon, c'est
ouais.
Ça?
Ouais, non, c'est pour positionner le ballon, pour savoir où on va le mettre. Aussi, c'est pour le mur, pour pas qu'il s'avance.
Ah oui.
Ou coup franc.
Donc, la goal line technologie, elle repose sur un système vidéo. Il y a 7 caméras pour chaque but qui sont installées dans les tribunes. Elles envoient directement les données à 2 très grands ordinateurs qui déterminent si le ballon a franchi la ligne de but. Et l'arbitre, il reçoit alors directement l'information sur une montre spéciale. Et la LFP, du coup, elle a choisi la société allemande Gold Control.
Pour c'est pas installer... bien son nom, oui.
Oui. Pour installer ce dispositif en France. Une société d'expérience, puisqu'elle a déjà fait pour plusieurs stades de Coupe du Monde. C'est le prix de ces installations.
Pas cher.
Ce sont de 200 000 à 300 000 euros par stade.
Ah ouais.
Ah quand même.
Ah ouais, mais voilà. Cette caméra est plus des gros PC.
Donc pour l'ensemble des stades français, ça fait de 4 à 6 millions d'euros.
Tout ça pour savoir si le ballon passe la ligne.
Voilà.
Mm-hmm. C'est incroyable.
Mais normalement, il y a des arbitres qui se mettent à peu près sur la ligne de corner et qui arrivent.
Ouais. Des fois, ça sert à rien, ça.
Sinon, ça s'appelle aussi l'incertitude du sport. Où on ne sait pas tout le temps. Mais...
Enfin, au tennis, ils ont compris. Hein, ils mettent 14 arbitres et puis chacun surveille un morceau de ligne.
Ça fait du boulot, en plus.
Voilà, exactement. Ça crée de l'emploi.
Voilà. Et les clubs, ils n'auront pas pourtant à payer cette somme parce que la LFP, elle va prendre à charge les frais.
Ah oui. Le bon plan.
Lors de la Coupe du Monde 2014, le premier testeur, le premier qui a utilisé la goal line technologie pour marquer un but, il s'agit du français Karim Benzema.
En plus.
Voilà, donc. Et voilà, alors son but, il aurait bien pu ne pas être attribué, alors que le ballon avait bien franchi la ligne après sa frappe. Et les spectateurs, ils ont en effet pu le voir directement, le verdict, sur l'écran géant du stade.
Ouais. Ouais, c'est là où quand même l'arbitre est un peu dépossédé, puisque voilà. C'est la technologie qui va lui dire, tu dois dire oui ou non, quoi.
Après, il fait déjà assez de... comme ça.
Dans 5 ans, on aura un drone comme arbitre.
Ouais, voilà.
Et des robots comme joueurs.
Ouais, des puces partout pour savoir si... Pour le championnat d'Europe, il y sera cette technologie
Oui, l'Euro 2016. Ah, oui, comme l'Euro il est en France, oui.
D'accord. Peut-être que c'est un Français, donc il va encore là de nouveau inaugurer cette Gold Line technologie.
Je pense qu'on va gagner face à la Roumanie. Ah,
le 10 juin, tu veux dire ?
Ouais, le 10 juin.
Et de son côté, la première ligue, c'est la ligue anglaise.
Yep.
Elle utilise déjà la Gold Line technologie, elle, depuis la saison 2014-2015.
Et au rugby, tu disais, Esteban, non ?
Oui, c'est pareil. C'est pour savoir si. C'est un peu. Enfin, je sais pas, mais c'est plus compliqué parce que la balle, faut pas qu'on tire dans les caisses. Y a pas... Donc, il faut qu'on l'aplatisse et des fois l'arbitre ils sont que 3 et des fois ils sont 3 à regarder
et ils sont
mais
10
des fois,
dessus
ça
en plus
pas. Ouais, ils sont 10 sur la base, donc des fois c'est un peu compliqué. Ce donc ils en mettent en hauteur sur les côtés
Là il y aura des drones là bientôt, tu vas voir.
Là c'est possible.
Alors rugby, ils ont déjà sur les matchs du rugby tu le vois souvent, ils ont 14 caméras qui te filment le truc sous tous les angles.
Il y a beaucoup de vidéos au rugby.
Ouais, d'ailleurs ça a un petit peu cassé le rythme et le côté de ce sport, je trouve.
Ouais. Moi, je propose qu'on mette une boule radioactive dans le ballon avec un scanner en fait à la ligne de but et en fait tu sauras vite si ça passe le but ou pas quoi.
Ouais.
Et dès que ça franchit, ça fait bip bip bip.
C'est ça.
Voilà. On ne serait pas embêté.
Puis dans 10 ans, il y aura moins de footballeurs. On se fait une pause en musique et puis on revient dans un instant pour la suite de l'actualité.
Died alone, a long, long
De retour pour la deuxième partie de l'émission. Alors je vais reprendre directement avec un... On va parler non plus de voiture autonome, mais de camion autonome. Je sais pas si vous en avez entendu parler.
Non, pas du tout.
Il y a 5 constructeurs en fait européens de camions qui se sont en fait regroupés et qui ont organisé en fait un convoi de 12 camions. Donc vraiment des semi-remorques, hein, donc
ouais, pas du 12 camions, ça, quand même. Ça passe pas inaperçu non plus.
C'est ça, ça passe pas inaperçu. Et donc en fait, ils sont partis de Suède. Voilà, du constructeur Volvo, je crois, de mémoire. Ouais. Et en fait, ils ont traversé une grande partie de l'Europe et ils ont franchi 4 frontières. Voilà, avec donc ce convoi de 12 camions autonomes.
C'est le même principe qu'une voiture autonome ?
C'est ça, exactement. Ouais. Donc en fait, les différents camions se pilotaient en Wi-Fi de l'un à l'autre.
Ouais.
Pour qu'ils puissent en fait se suivre.
D'accord.
Voilà. Donc c'est pas, oui, c'est pas 12 camions séparés, hein, c'était vraiment un convoi de 12 camions. Et en fait, ils expliquaient que le but était de faire suivre les camions en fait très près les uns des autres afin d'en fait d'abaisser la consommation. Ils ont gagné apparemment 15% de consommation de carburant. Alors le trajet aurait fait économiser 6000 euros de carburant.
Ouais, plus le temps. Voilà. Ça n'arrête pas pour aller au WC, ça n'arrête pas pour manger, ça n'arrête pas pour prendre une photo.
C'est ça. Ils ont parcouru donc 2000 kilomètres en tout. Voilà, sans incident. Donc un nouveau pas en fait dans le monde des véhicules autonomes.
Objets connectés, camions connectés, convois connectés.
Et du coup, les camionneurs, ils sont passés où?
Au bord de la route.
Ils ont fait du stop.
Voilà.
C'est ça. Bon, moi, je dis à ce point-là, hein, autant les mettre sur un train et les faire rouler en train, mais après...
Ouais. Non, c'est sûr que ça va intéresser des grands groupes, quoi. Ça, c'est sûr, quoi. À 15%, si l'essence remonte et compagnie, gasoil.
C'est ça.
Le genre de solution qui va... Ouais.
Voilà, apparemment, ils étaient quand même, il y avait quand même des chauffeurs dans les camions, au cas où.
Oui,
ouais,
d'accord.
Actuellement, la législation interdit un véhicule roulant sans que personne puisse reprendre la main dessus.
Ouais, et puis tu crèves, je veux pas dire.
C'est vrai.
Donc là, il y avait des chauffeurs, mais effectivement, eux, ils expliquent que le principe, en fait, pourrait être sur des autoroutes comme ça, où les chauffeurs puissent se reposer.
Ah ouais.
Voilà, d'une entrée d'autoroute jusqu'à la sortie en fait, et après le chauffeur pourrait reprendre la
comme ça
la machine pour aller au point final quoi.
D'accord.
Mais du coup c'est vrai qu'il prendrait le train le train de camion en passant comme ça.
D'accord.
Sur lequel il viendrait se coller au fond et après du coup le tout serait piloté tout seul quoi. Mais là c'est vrai que les camions en fait se suivaient. Alors la distance minimum était de 50 mètres. Mais en fait, ils ont réussi apparemment à descendre dans toute cette distance-là.
Ah ouais.
Donc les camions, se suivaient. Et c'est ce qui a fait aussi l'économie d'énergie.
Parce que t'économises du...
Moins de frottement d'air, etc. Ah ouais, quoi. Voilà. C'est ça l'idée, ouais.
Comme les cyclistes.
Par exemple. Moins de frottement d'air, quand même. Mais...
Voilà.
Une autre actu?
Et donc, Samsung confirme la mort des téléviseurs 3D.
Ah.
Bon, ça a jamais trop marché, quand même. Hein.
Ouais. Donc, en 2016, le constructeur est le seul à ne proposer aucun modèle 3D dans ses gammes de téléviseurs. Samsung condamne ainsi une technologie qui n'a jamais vraiment réussi à séduire les consommateurs. Aucun téléviseur 3D ne sera présenté dans les gammes 2016 de Samsung. Donc c'est par cette décision radicale que le constructeur coréen, leader du marché des téléviseurs, signe la mort de cette technologie. C'est la seule marque à l'avoir entièrement évincé de ses modèles cette année. Encore 20% des téléviseurs de LG sont 3D et quelques références subsistent également dans le catalogue de Sony.
D'accord.
J'ai un peu l'impression que la 3D, même au cinéma, ça prend pas forcément.
Pourtant, ils font vraiment les films pour. Hein.
C'est...
Oui. C'est. Y a que ça. Hein.
Ils sortent tous en 3D, n'importe quoi.
Ouais.
Et les gens se plaignent, donc du coup, je comprends pas.
Ouais.
Maya l'abeille en 3D.
Ouais.
Et vous, qu'est-ce que vous pensez de la 3D? Que ce soit au cinéma ou à la télévision?
À la télévision, c'est bien, mais je crois qu'au cinéma, faut payer dès qu'on voit un film en 3D.
Non, mais non, t'achètes tes lunettes.
Ouais,
mais,
non, faut payer.
Ouais, la 3D au cinéma, je préfère, mais quand c'est des films d'action ou c'est que là, la 3D, c'est mieux.
Ça se justifie, quoi.
Ouais.
Mais il y a l'abeille, tu l'as pas senti, quoi.
Non.
Ça peut se comprendre.
Non, mais c'est vrai que c'est une technologie qui a du mal peut-être à prendre aussi et à séduire le public, quoi. Ouais. Alors, en faire un téléviseur chez soi, la réalité augmentée, de toute façon, on aura la mort de la 3D, quoi.
Ouais.
J'ai vu qu'une fois à la télé, c'était pas terrible. Hein. Enfin, ça fait comme au ciné, quoi. S'il y a pas de profondeur, enfin, si les effets sont pas là, il y a pas de 3D, quoi. Enfin,
Ah oui, de toute façon, faut que...
Un match en 3D, c'est... Ouais, non, enfin voilà.
Il faut vraiment que t'aies le Blu-ray avec le film fait pour...
Ouais, il faut un grand écran, il faut vraiment quelque chose d'important.
Faut investir. Hein.
Voilà, ouais.
De toute façon, il est montré que les seuls films en 3D qui marchent, ce sont vraiment les films qui sont tournés en 3D avec deux caméras.
Ah oui, ouais.
Que les films qu'ils ont essayé de reconstituer en 3D, en intercalant les deux bandes du même film, ça n'a jamais séduit le public, quoi.
Ouais, c'est pas le...
Ouais, donc c'est vraiment les films qui sont tournés entièrement en 3D avec tout le matériel qu'il faut, on commence à séduire. Ouais. Après, le reste, on a beau aussi de tromper l'œil...
Ouais, les emails, ça marche pas. Ça marche pas tip-top, quoi.
Guillaume, une petite actu?
Ouais, une petite actu. J'ai dit que je parlerais des youtubeurs et youtubeuses. Et il y en a deux, là, qui font un petit peu l'actu. Alors, peut-être malgré elles. Vous les connaissez sûrement pas. Pourtant, elles ont 800 000 abonnés. Ou elles avaient 800 000 abonnés. C'est Caroline et Safia. Ah, c'est ça, hein?
C'est ça.
Vous les connaissez, les gens?
Non.
Non. Alors, bon, vous allez me dire, c'est un peu normal. C'est deux youtubeuses qui doivent avoir quoi, 19-20 ans, je pense, max. Ouais, 19-20. Et en fait, t'es spécialisée dans tout ce qui est mode, maquillage.
Rien d'intéressant pour les garçons, quoi.
Il y a des garçons, tu sais.
C'est vrai, voilà, des garçons qui s'intéressent à la mode et des filles qui s'intéressent à la mécanique, hein, faut pas croire que.
Mais des garçons qui s'intéressent au maquillage, hein.
Bien sûr.
Hein, t'as esquissé le maquillage là, mais.
Non, mais là, le cosplay s'intéresse. Mais voilà, il n'y a pas spécialement de. Et en fait, c'est deux youtubeuses qui avaient la particularité d'avoir une chaîne ensemble. Voilà, Caroline et Zafia. Et là, malheur, désastre. Donc, en lisant le Financial Post, qui est quand même un journal, on va dire, assez sérieux, un pure player, comme on dit. Et voilà, en pleine page, on découvre donc qu'elle se chamaille, elle se crêpe le chignon, et vas-y, que. Vidéo de besoin de parler, tu comprends, et tout. Donc, si vous voulez rigoler, c'est assez intéressant.
Elle s'appelle Caroline et...
Safia. Ouais. Et en fait, elles peuvent plus, tu te rends compte que toutes les dernières vidéos qu'elles ont faites depuis un an, elles peuvent plus blairer, que tu comprends, je te sens plus ma copine, tu as vachement changé, bah, tu m'étonnes avec tout ce qu'elles ont de se payer, de sponsoriser. Voilà, donc c'est assez rigolo.
Et elles font ça en vidéo, quoi.
Ah ouais.
C'est ça qui est bizarre.
Voilà, enfin, et chacune de sa côté. Version, la révélation, on va plus faire de vidéos communes sur... On va plus poster de vidéos communes sur...
800 000 abonnés dégoûtés.
Voilà. Et sur les réseaux sociaux. Ah non, mais moi je suis pour toi. Ah mais non, mais moi je suis pour toi.
Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a un an, le 1er avril 2015, en fait, elles avaient fait une vidéo de séparation, qui était en fait un poisson d'avril.
Ah, d'accord.
Et donc là, quand elles ont refait une vidéo qui est sortie le 6 avril, tout le monde, du coup, a cru à un poisson d'avril.
Attends, la première, là, elle pleure dans sa salle de bain, quand même, hein. La Caroline.
Elle se filme, enfin, c'est un truc
alors,
de dingue.
Sachez, elles sont toujours super bien apprêtées et tout, bien maquillées et tout, version Yes, le petit Zara ou autre, et là, tu la vois dans sa salle de bain.
Faut quand même après la mettre sur YouTube, enfin, je veux dire, il y a toute une démarche derrière, comment elle arrive jusqu'au bout en se disant non, ça va passer.
Parce qu'après, c'est des entreprises, en fait. Je regardais un petit peu le rythme de postage de ces...
Les sponsors et tout ça, non, qui
c'est
jouer
tous les
derrière,
trois jours, quoi.
Ouais, voilà.
Ces filles-là postaient tous les trois jours des vidéos de 5, 10, 15 minutes, quoi. C'était vraiment très, très codifié, quoi.
Il y a un enjeu derrière, quand même.
Ouais, c'est une boîte de prod, en fait, ouais. Indépendante. Et là, elle explose en plein vol et, toute la magie de, du monde merveilleux des réseaux sociaux de YouTube, bah là, elle est, voilà.
Oui, ça joue sur le buzz pour voilà, c'est limite les sponsors qui disent vas-y gueule parce que
ou l'envers du décor est pas très joli quand même parce que ça tourne en capture d'écran des messages et tout. Je rappelle que vous avez pas spécialement le droit d'évulguer par exemple des messages privés quoi. C'est des correspondances privées. Là, elle a pas du tout compris qu'elle était hors la loi avec ça quoi.
D'accord. OK. Ouais.
Donc je rappelle hein, vous avez pas le droit de faire des captures d'écran diffuser au plus grand nombre les messages que peut vous envoyer une personne hein.
Et en plus elles se sont déclarées la guerre sur Snapchat et tout.
Voilà.
Ah oui, donc il y en a un des deux un jour qui va porter plainte et ça va partir loin.
Ça parle d'avocat, hein,
et
oui, latino.
Et oui, oui.
Et pourquoi elles sont disputées?
Parce qu'elle a changé. Elle a changé. Je t'ai envoyé des textos pour ton anniversaire, tu m'as pas répondu. Non, après je pense que tu prends à un moment donné le melon, quoi. Quand t'as 200, 300 000 personnes qui aiment tes vidéos et tout, tu changes, quoi.
En fait, apparemment, Safia voulait ouvrir sa propre chaîne YouTube.
Voilà. Elle voulait parler des graines et de l'écologie.
Voilà, sur une autre thématique, et en fait, son ami toujours n'aurait pas apprécié.
10 ans d'amitié.
Voilà. Alors, vraie séparation ou coup de pub?
Ah, la vidéo dans la salle de bain, je kiffe, moi. Besoin de parler, 3 points de séparation.
Est-ce que...
Et là, ça te fait 23 minutes, hein. Tu fais 23 minutes. Ouais, non, mais c'est vrai, là.
Ah, c'est terrible.
Non, mais je veux dire, il y en a qui regardent la télé-réalité, honnêtement, t'embêtes pas, hein.
Oui, c'est pareil. Hein.
Ouais. Et les cheveux problèmes, le nombre de jeunes qui doivent être catastrophés parce que c'est. Si vous voulez parler à vos ados, parler de Caroline et Safia, je pense que ça peut faire le dessert. Quoi.
Est-ce que vous suivez des youtubeurs ou des youtubeuses?
Des fois, quand j'ai le temps.
Ouais. Pareil. Sur quelle thématique?
Sur un sujet spécifique, sur le jeu vidéo, sur la Mongolie extérieure.
N'importe comme ça.
Sur l'humour, moi.
Ouais, l'humour.
Ouais. C'est ceux qui plaisent le plus aux jeunes, c'est quand c'est des vidéos qui...
Ouais, Norman, Squeezie,
ouais.
Cyprien.
Ouais, c'est vieux ça quand même. Oh, ils sont tous passés à la télé, je veux dire. Il n'y a pas un youtubeur que vous aimez bien qui n'est pas encore passé à la télé? Ou vous servez de la télé pour les connaître?
Vous voulez pas là faire l'exclu d'un youtubeur encore pas connu qui pourrait devenir une star demain?
Qui est bien?
Bonjour Tristesse.
Bah, j'ai un copain au collège qui en fait des vidéos.
Ouais.
C'est des vidéos de vélo et de moto.
Ouais.
Donc, qui s'appelle Benji DD12.
Déjà.
Donc, qui passera à télé.
D'accord. Et il vous dit, allez voir mes vidéos et tout. Vous êtes tous au courant qu'il fait des vidéos, quoi.
Oui.
Et vous lui en parlez dans la récré en disant, hey, c'est pas ta dernière vidéo?
Bah, moi, je regarde pas, donc.
Ah, t'es ça, bah, bravo. T'aimes pas?
Tu fais sa promo et tu regardes pas ses vidéos. C'est bien.
Et toi, Mathéo, non? Comment faire une. Faire des vidéos sur YouTube, non, c'est pas...
Non.
Mais comment on fait?
Oh, ben, comment on fait? Tu crées un compte sur YouTube avec ta boîte Gmail. Et après, tu t'enregistres avec, ou avec ton smartphone, ou avec ta tablette, ou avec ta webcam.
Sinon, j'ai un autre YouTuber. Mm-hmm. C'est Magali Bouvet, qui fait des vidéos de Zumba sur YouTube.
Exactement. Vous en avez d'autres là, tant qu'on est de la promo là?
Non, là, enfin, je regarde beaucoup. C'est vrai que je me cultive un petit peu au YouTube. Mais je fais attention, j'essaie de croiser un peu les. Enfin voilà, parce qu'on sait jamais. Mais ouais, je regarde dans thématique. Tu parlais, il y a, je vais de la politique, à l'humour, voilà, jeux vidéo, etc. Quoi.
Pas de chaîne YouTube encore à la MJC?
Non. J'en ai parlé avec Bruno là pour présenter les spectacles parce que je pense qu'il pourrait bien le faire. Après, c'est une question de temps, de dispo. Après, il y a toujours un club cinéma, il y a 25 images secondes, il y a des petits jeunes quand même qui font des petits courts métrages, qui est pas mal. Il y avait eu la web série Gone, ce qui à l'époque avait bien marché.
Qui a bien marché, ouais.
Ouais. Mais après, beaucoup de la vidéo a vraiment le vent en poupe avec toutes les nouvelles applications qui sortent régulièrement là-dessus.
Alors rapidement, je vais vous parler parce qu'on peut pas faire une émission quand même sans parler de Mossack Fonseca.
Ah, Panama Papers.
Voilà. Donc je sais pas si vous avez suivi la polémique en ce moment.
Je voulais en parler, mais j'ai hésité.
Ah, la société offshore.
Tu as l'actu ou pas?
Non.
Ah. Alors en fait, moi je vais vous parler de Mossack Fonseca, mais du côté informatique, hein, puisqu'en fait, on ne sait toujours pas d'où vient les informations.
Ouais. Enfin, il semblerait que ça, c'était quand même du gruyère leur système. Hein, de...
C'est qui Mossack Fonseca?
C'est l'entreprise...
Un cabinet d'avocats.
Voilà.
Voilà, panaméen, qui en fait aurait été chargé de monter en fait des sociétés écrans pour détourner de l'argent au fisc des différents pays en fait.
À l'heure actuelle, quand tu gagnes de l'argent d'une manière ou d'une autre, revente d'un bien immobilier ou autre, tu es taxé. Par exemple, si tu as un héritage, tu vas être taxé de manière assez importante. Et pour éviter cela en fait... Tu peux, l'immeuble plutôt qui t'appartienne ou l'appartement, il va appartenir à une société. Une société qui va être basée hors de France, hors d'Europe, et au Panama et autres, quoi. Donc ils vont faire le jeu de créer plusieurs sociétés, Luxembourg, Singapour, Panama, Belize, et j'en passe. Pour comme ça, pour pas qu'on te retrouve et qu'on sache que ça soit toi le propriétaire de cet appartement, par exemple. Et là, l'idée, c'est qu'un gentil hacker, a plus ou moins extrait toutes les données, toutes les archives de cette banque-là, de ce cabinet-là qui ne devait pas être connu, puisque eux, c'est le secret qui est un petit peu
leur. Ça, c'est pas bon, ça, non? L'histoire doit pas être... Si le hacker il réussit à prendre toutes les bases de données, ça doit pas être... Non, dans l'histoire, ça doit pas être très bon, ça, non?
Très bon, dans le sens où...
Tu parles de l'entreprise, elle doit pas être très fière, là, non, de ce qui lui est arrivé, à mon avis.
Non, je pense que le cabinet d'avocats, à mon avis, eux qui se vendent sur leur site de confidentialité maximum.
Ouais.
Ouais,
là, voilà ce que je voulais dire, en fait. Je voulais juste confirmer.
Ce qui est même étonnant, c'est que ça ne va pas arriver avant, ce genre de truc, parce que je pense pas que toutes les boîtes soient bien sécurisées, quoi.
Oui, il y a toujours un moyen, de toute façon, un hacker qui s'y connaît bien, je pense qu'il peut faire le tour de beaucoup, beaucoup d'entreprises.
Là, on parle de milliers de gigas de documents, hein, donc,
De 2,6 teraoctets, 11 millions de fichiers.
Tu mets ton disque dur et t'en rajoutes, quoi. Donc, je sais même pas comment il a fait pour tout uploader, parce que va uploader, toi, 2 téra, quoi.
Il est militant, tu sais.
C'est pas ton ADSL que tu as.
Comment ils se sont pas rendus compte?
Petit à petit, quoi. Non, tu fais une copie.
Alors en fait, apparemment, la faille en fait viendrait d'un oubli de mise à jour de WordPress et de Drupal. En fait, le cabinet aurait hébergé en fait sur leur serveur deux vieilles versions en fait, une de WordPress qui permettait de qui hébergeait leur site internet et une de Drupal. Voilà, qui était à la version 7.23 pour Drupal, alors que nous sommes aujourd'hui à la 7.32.
Ah ouais, tout de suite. D'accord. Non, mais c'est quand même des entreprises qui brassent des millions. Hein.
Et oui, en plus. Ouais.
Voilà. Et donc, du coup, le hacker serait passé par cette faille pour accéder en fait au fichier qui était hébergé sur le serveur.
Pour donner un petit peu un aperçu, il y a certains employés qui étaient, comment dire, des hommes-papiers, hein, qui faisaient partie de ces sociétés, des conseils d'administration. Hein. Je lisais un article sur une personne qui était partie prenante de plus de 10 000 entreprises offshore, quoi. Donc c'est D'accord. quand même du gros business, c'est quand même beaucoup de données, et que ça soit comme ça étalé au grand public.
Ah oui, ouais, c'est mauvais. Ouais. Ouais.
Voilà. Et donc du coup, pour WordPress, en fait, il serait passé par un plugin qui s'appelle Revolution Slider. Qui avait pas été mis à jour. Et donc du coup, ce plugin aurait permis, enfin la faille aurait permis au hacker d'envoyer un fichier sur le serveur sans pouvoir s'identifier. Et donc après ils sont passés par ce fichier pour accéder en fait au reste du serveur.
Mmh. Voilà. Et là, tu te donnes les droits et
Schling. Et voilà. Schling. Hop, tu fais tout passer.
Voilà, d'où l'importance, on le rappelle hein. Quand vous utilisez des CMS ou des logiciels comme ça, de bien toujours les mettre à jour,
les patcher. Voilà. Les patcher parce qu'il y a des failles qui sortent des fois et c'est chaud. Après, ce qui est étonnant dans un cas comme ça, c'est le fait que, il n'y ait pas eu de rançon. Souvent, les hackers comme ça vont dire, bon, écoute, je possède toutes tes données, fais-moi un petit virement.
Voilà. Soit tu me fais un virement, soit je mets tout, voilà. Enfin, je me sers en tout cas de tes données. Ouais.
Alors, ou il s'était déjà gavé sur d'autres sociétés, il dit, bon, allez, cette fois-ci, on va se faire plaisir. Ou alors, c'est piloté par, d'autres personnes, piloté par d'autres services, on peut imaginer aussi.
Ouais, voilà, d'autres entreprises. Ouais.
Ou c'est un hacker gentil.
Voilà. Ou c'est un gentil, ou c'est un manipulé par des états qui souhaitaient un petit peu faire bouger les choses.
D'accord.
Ou le hacker a fait payer, et une fois qu'il a fait payer, il a envoyé ça aux journalistes.
Voilà.
Ah oui, aussi, ouais.
Sachant qu'ils étaient une centaine, hein, de journalistes à travailler sur le sujet, là, donc, ouais, c'était aussi un gros travail de coopération internationale là-dessus.
Mais pour lire 11 millions de fichiers, c'est vrai que...
Ils ont créé des outils, hein, ils ont créé des outils pour analyser la base de données et tout, parce que, ouais, 2 Tera, tu cherches pas comme ça.
Ah non, non, il y a trop d'informations, hein. Ouais.
Et donc, du coup, alors, suite de mon de ces cas, Fonseca, je sais plus quoi.
Fonseca,
voilà. Parmi les impliqués, en fait, il y avait le premier ministre islandais, qui a démissionné en fait sous la pression populaire, puisque d'énormes manifestations ont eu lieu juste après la révélation.
D'accord.
Et donc un nouveau sondage en fait en Islande a eu lieu et en fait donne le parti pirate islandais à 43% d'intention de vote.
D'accord.
Voilà, donc apparemment ils auraient doublé leurs intentions de vote en Islande.
Ah ben de toute façon l'Islande, ouais ils sont. Ouais. Il y en a pas d'autres, il y a Cameroun, il y avait un paquet. Ils ont pas tout épluché encore. Je pense qu'ils s'amusent petit à petit à délivrer un petit peu chaque jour des nouvelles révélations.
Ça viendra. Ouais. Tu peux pas révéler de toute façon tous les noms.
D'un coup. Faut savourer.
Il y a des footballeurs, je crois, dedans.
Oui, on reparle de
Messi.
Voilà, beaucoup de clubs de foot aussi, espagnol. Bah, de toute façon, du moment que tu as de l'argent et que tu veux le cacher ou tu veux être exonéré, voilà. Faut savoir que l'évasion fiscale là-dessus, hein, c'est des centaines de milliards d'euros, hein, pour la France. Comparé à certaines autres fraudes, c'est quand même la plus importante à l'heure actuelle.
Eh oui.
Je le rappelle parce que des fois,
un autre sujet, on peut parler du droit à la déconnexion.
Ah.
On n'en a pas trop parlé encore dans le.
Ouais, je vois pas.
Dans l'émission. Alors, le droit à la déconnexion, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est tout simplement le droit aux salariés de pouvoir rentrer chez eux le soir.
Et de pas.
Et d'éteindre, en fait, le téléphone portable ou l'ordinateur et de ne pas être connecté.
D'accord. Voilà,
parce qu'en fait, les entreprises, de plus en plus, donnent des smartphones connectés à leurs employés et finalement
et t'as pas répondu
à exiger voilà
oui, c'est la ça. Réponse à un t'es mail t'es rentré ou... chez toi t'as pas répondu alors
je sais que tu l'as lu le message.
Oui,
j'ai vu sur Facebook, attention.
Si tu peux me renvoyer le PDF, le PowerPoint corrigé avant 23h, s'il te plaît, merci.
Oui, voilà, ça, du coup, il n'y a plus d'heure de enfin le d'heure de travail, t'as 24 quoi.
Voilà, c'est ça,
plus d'intimité, plus de
le pire c'est pendant les vacances, tu décroches pas.
Oui, voilà.
Un homme qui décroche pas. T'es connecté au boulot.
Et donc, du coup, les députés ont proposé la semaine dernière, dans la commission des affaires sociales de l'Assemblée, donc du coup, un projet de loi pour instaurer le droit à déconnexion dès le 1er janvier 2017.
D'accord.
Voilà. Donc, en fait, c'est donc un ensemble de mesures qui, en fait, imposeraient aux entreprises, notamment, par exemple, de ne plus délivrer de mail sur les boîtes mail après une certaine heure. Voilà. Donc du coup, les mails qui arriveraient sur les serveurs d'entreprise, en fait, devraient être stockés en fait sur le serveur et seraient distribués dans les boîtes mails des agents que le lendemain matin, en fait.
Ça aussi, on y pensait, ça, à la MJC.
Ouais.
Parce qu'on a des accros au smartphone et.
Ouais, c'est bien. Enfin, quand même.
Je pense. Hein.
C'est une bonne solution. Enfin.
Je pense.
Je suis sûr que ça va être un peu de merdier parce que les mails ils vont pas s'envoyer ou des trucs comme ça. Mais enfin, sinon.
Putain, ça fait 5 jours qu'il n'y a pas eu de mail.
Pour donner une mesure à des mails, il y a à peu près 204 millions de mails à la minute.
Oui, bah, c'est ce que je dis, ça va, être le, ça va être le bordel.
2 milliards en 10 minutes. Et juste pour rebondir sur ce droit à la déconnexion, je lisais une petite stat. À votre avis, un salarié par jour, il passe combien de temps en surf personnel?
En surf personnel.
Ouais, c'est-à-dire que tu bosses, on va dire, à 8h, 9h par jour, max. Combien de temps? Après, c'est des déclarations, hein, je pense. À votre avis, combien de temps passe un employé, un salarié, pour son surf perso? Les vacances, pour aller sur le bon coin.
Je dirais une demi-heure.
Une demi-heure?
Ouais.
Sur la journée?
Ouais.
Non, moi, c'est particulier.
Moi, je n'ai pas de contrat de travail, donc je ne suis pas salarié. 1h30, 1h36.
Oh, ah, quand même.
Ouais. C'est quand même en termes de productivité. Alors tu as d'un côté, on va te demander de travailler beaucoup plus tard, et de l'autre, ben
tu peux faire ce que tu veux.
On
n'a
jamais été autant glandé que ça au boulot, parce que.
Et ouais, c'est vrai.
Parce qu'une heure et demie, c'est quand même pas mal. Hein. Sur une semaine, ça fait quand même 8 heures. Hein.
Ouais, ça fait un jour de boulot, quoi.
Cramé sur le. Donc après.
Voilà, donc tu peux quand même répondre, mais il le sort.
C'est ça, ouais, du coup, c'est là,
tiens,
le problème.
Ouais. Là, je ferais ça. Après, voilà, ça fait qu'augmenter, effectivement, le surf perso, chaque étude, puisqu'ils avaient fait, il n'y a pas très longtemps, une autre étude. Donc, Céline, c'est elle quand même qui a fait cette étude-là, c'est pas, voilà.
Ah oui.
C'est quand même assez sérieux.
Ouais.
Et je rappelle que le surf personnel, officiellement, hein, dans le cadre du contrat de travail, du droit du travail, n'est pas autorisé, hein. Quand vous êtes au travail, hein, sur votre lieu de travail, vous êtes là au service de votre employeur. Et donc, vous devez avoir normalement tous vos moyens pour faire les tâches qui vous incombent. Quoi. Et pas spécialement regarder le bon coin. Voilà. À moins que ça fasse partie de votre boulot. C'est autre chose.
Oui, si vous travaillez au bon coin, vous avez le droit d'aller sur le site du bon coin. Hein.
Il nous reste 2 minutes.
Ah, une dernière actu alors, peut-être, avant de finir.
Oui, est-ce que vous connaissez la... Oui, Mathéo. D'accord. Est-ce que vous connaissez la plateforme Mimosa?
Non.
Oui. Le nom, oui.
Ouais.
Oui, le nom. Non,
mais... la fleur, oui.
M-I-I-M-O-S-A. Et en fait, c'est une plateforme où on peut soutenir des projets. Et il y a un jeune homme du côté d'Espalion qui souhaite créer une serre en biodynamie. Et voilà, donc il lance un appel à... Vous pouvez le soutenir. Et lui, son objectif, c'est vraiment de sauvegarder tout ce qui est les herbes rares. Et il est champion de France de détection, je crois, des végétaux.
Donc d'accord.
Quand même assez fort.
Champion de France de détection des végétaux.
Ouais, ça existe.
D'accord.
Ouais.
On aura appris un truc.
Voilà, donc c'est sur Mimosa. Il y a plusieurs projets aveyronnais qui ont été lancés sur cette plateforme. Et voilà.
Donc on peut faire des dons.
Exactement. Voilà. Il devait, je crois, récupérer 4 600 euros. Il était déjà, il y avait une quinzaine de contributeurs. Donc, je crois qu'il était à plus de 2000 euros. Donc voilà, ouais, il manque encore un petit. C'était 40 jours, la durée pour le soutenir. Donc voilà, je vous invite à aller le soutenir. Sur la plateforme Mimosa, quoi.
Voilà, Mimosa qui est donc la plateforme de crowdfunding liée à l'agriculture
biologique
responsable.
Voilà.
Donc si vous voulez aider des agriculteurs,
Des personnes qui veulent se rapproprier et permettre aux gens d'avoir une alimentation saine, ça fait partie des bonnes choses. Et il animera la fête des plantes rares à Saint-Genès-d'Olt au mois de septembre. Voilà, pour être tout complet.
Cool.
Yep. Okay. Belle initiative.
Eh bien, on va se quitter sur cette belle initiative. On se retrouve du coup dans 15 jours.
Ouais.
Voilà, au même endroit, hein, même heure.
CFM.
Voilà, sur CFM. On souhaite une bonne semaine.
Oui.
Mathéo, Seban. Dans 15 jours.
Voilà.
Salut.
Au revoir.
Au revoir.
Les souris ne mordent pas, l'émission qui vous parle des nouvelles technologies en CFM.